Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2 avec Eric Jean-Jean et Mathilde Courgeot.
Et bien c'est l'album de la semaine, ou plutôt l'album de la discothèque idéale du Drive. Et comme vous savez qu'on travaille en équipe dans le Drive RTL 2, normalement Mathilde propose à l'équipe et puis présente les albums. Mais là en l'occurrence, c'est un album tellement important pour Thomas qu'on a décidé de changer les rôles. Alors ce qui se passe maintenant...
On est obligé de le faire vraiment.
Ouais, vraiment.
Je
vous explique d'ailleurs, regardez les images sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Drive. T'es quoi, t'es en direct Luna ou c'est... Non, t'enregistres. On le mettra après alors. Donc Mathilde est passée à la console. Heureusement, t'as une body double qui s'appelle Nico.
Mais moi, j'ai pas.
Il est en soutien.
Et, non, je suis ton body double.
Moi, je suis sans filet quand même.
Voilà. Et donc, Thomas a décidé de choisir un album dans la discothèque idéale du Drive. Un album fondateur pour Thomas, Rage Against the Machine.
Eh oui, effectivement, Rage Against the Machine. Quelle belle année 1993. J'avais 15 ans, Eric. Ouais. Je te pose pas la question.
Non. Voilà, ça, depuis ça quelques mois. J'avais 26 ans, je crois.
Comment ?
Non, continue.
Ah, d'accord. Depuis quelques mois, Nevermind de Nirvana tourne en boucle sur mon lecteur CD et soudain la claque, voilà. Killing in a Name, extrait de Rage Against the Machine, sorti quelques mois plus tôt en novembre 92, le premier disque éponyme du groupe Rage Against the Machine. Ah ouais, mais faut enchaîner à l'arrière, attention, c'est un métier.
Il en faut vite pour pourrir la réalisatrice, mais je ne crois pas.
10 titres sur cet album d'une agressivité nouvelle. Sur chaque piste on trouve des riffs rugueux. La preuve, une basse imposante et groovy, un peu comme si Metallica rencontrait les Red Hot Chili Peppers dans le salon de Public Enemy.
C'est vrai qu'on est vachement dans l'esprit des Red Hot Chili Peppers quand même.
Ouais, c'est un bon mélange de tout.
Ouais, c'est un bon mélange de ça.
Une voix rocailleuse avec des textes toujours engagés et politiques, parce que c'est ça aussi la singularité de Rage Against the Machine. Ouais. L'engagement, la critique du système. Zach de la Rocca, le charismatique chanteur, crache sa haine sur le conservatisme de George Bush à l'époque, son indignation sur le traitement des minorités, sur le conformisme de la société américaine et la mort du rêve américain. C'est un album alors qui provoque un vrai séisme dans le monde de la musique à ce moment-là, et ça va être le point fondateur du genre qu'on va appeler New Metal avec Limp Bizkit et Linkin Park entre autres.
Alors mesdames, messieurs, j'aimerais les applaudissements pour un nouveau chroniqueur dans cette émission.
Merci.
Alors, patron, voilà la discothèque idéale
du
Drive.
Patron, je voudrais une augmentation, s'il vous plaît.
La discothèque idéale du Drive. Non, mais en revanche, ça peut donner des idées au patron, si tu vois ce que je veux dire. La discothèque idéale du Drive, point en l'air, Thomas. On écoute quoi?
On écoute Killing in the Name.
Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces.
horses are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. And now you do what they told you. 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 Under control. And now you do what they told you. Under control. And now you do what they told you. Under control. And now you do what they told you. Under control. And now you do what they told you. Under control. And now you do what they told you.
Au-delà d'être puissante musicalement, c'est une chanson qui politiquement est très puissante. Ceux qui travaillent au service de la force sont les mêmes qui brûlent des croix. On parle des flics qui font partie du Ku Klux Klan. Ceux qui sont morts sont justifiés en portant des badges. Ils sont les blancs élus. Bref, vous l'avez compris. Hein. C'est une histoire politique entre les policiers en fait du sud de l'Amérique qui travaillent aussi pour le Ku Klux Klan. Et puis la pochette, elle est. Je sais pas, Thomas, t'en as pas parlé parce que.
Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est un moine. C'est
moine bouddhiste.
Un moine bouddhiste par le feu.
C'est,
oui.
Voilà, c'était complètement dingue. Cet album est fou. Ouais. Et merci de nous l'avoir présenté. C'était Thomas Cambette qui représentait.
Bravo Tom, ouais,
vraiment
t'étais
merci.
Trop fort,
et puis surtout, ça nous fait vachement plaisir d'écouter ce titre-là. Et voici maintenant, donc, je vous le disais tout à l'heure, un hymne, c'est un énorme hymne rock'n'roll qui est devenu un hymne des stades. D'ailleurs, après Queen, je pense que possiblement c'est la chanson la plus jouée dans les stades. The White Stripes, Seven Nation Army, un album génial. Et bizarrement, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, très Beatles.
Ouais,
vraiment, il y a plein de trucs autour des. Bref, on y va pour The Seven Nation Army.
Donc, on est au début des années 2000 et. En fait, c'est à ce moment-là que les White Stripes vont quitter en fait cette scène rock, garage, pointue, indépendante de Détroit pour venir toucher un public beaucoup plus populaire. Jag et Mike White, ils ont déjà 4 albums à leur actif, mais c'est vraiment Seven Nation Army qui va les faire passer à une autre sphère. Seven Nation Army, c'est donc le premier extrait du 4e album, Elephant, qui est sorti en 2003. Et c'est un tube, évidemment, sans équivoque. Le riff est inoubliable, accrocheur. Les paroles racontent l'histoire d'un homme qui retourne dans sa ville natale et qui s'aperçoit que tous ses anciens amis... En fait, le dénigre et raconte des ragots sur sa vie hors de la ville. Le titre est assez mystérieux. Seven Nation Army, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il rappelle un défaut de prononciation à Jack White. Quand il était petit, il disait Seven Nation Army à la place de Salvation Army, l'armée du salut. Et les 7 notes de ce riff, maintenant, n'appartiennent plus du tout, finalement, aux White Stripes, malgré leur prix de la meilleure chanson rock de l'année. C'était aux Grammy Awards en 2004. Elle fait partie de ces chansons qui occupent une place de choix dans la culture populaire. La légende raconte que c'est depuis un match de foot, quelques mois mois après la sortie de la chanson. Ça se passait en Belgique. Il y a un match Bruges-Milan AC. Avant, les supporters se chauffent dans un bar, ils passent la chanson à la radio. Ni une ni deux, ils chantent ou crient et continuent jusqu'à l'arrivée du stade à faire ce refrain avec le riff de guitare. Ils s'arrêteront plus jamais. Il y a d'autres supporters qui reprendront au fil des matchs ce fameux po, po, do, po, 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 po. Tout ça lors d'un match Bruges-Milan AC, c'est génial, non?
Et pour la petite histoire du père Castor, cette ligne de basse qui va partir dans 3 secondes et demie, elle n'est pas jouée avec une basse, mais avec la guitare électrique de Jack White, qui joue avec la corde la plus grave et qui avait un peu désaccordé sa guitare pour cet enregistrement. Et c'est Meg à la batterie, parce qu'ils sont que deux dans le groupe. Une guitare qui vient d'être vendue. Alors c'est une nouvelle assez drôle, parce que j'aurais bien aimé avoir les moyens de me l'offrir, parce que c'est quand même une de mes idoles, Eric Clapton.
Et vous partagez ce superbe prénom. Il s'agit d'une guitare de la marque Guild, avec un modèle dont je tairai les chiffres et les nombres parce que ça ne sert absolument à rien. C'est une vente vraiment exceptionnelle parce qu'en fait la guitare est exactement dans le même état que quand Clapton l'a utilisée. Wow. Les cordes n'ont même pas été changées. Il reste même une trace de brûlure à l'endroit où il déposait ses cigarettes. Est-ce que c'est pas un peu poétique et complètement rock'n'roll cette histoire?
Est-ce que c'est sur le bout du manche ou pas?
Ah mais je sais pas.
Parce que en fait comme je sais pas si vous avez vu Keith Richards, vous voyez les manches d'un guitare, il y a les cordes qui vont là jusqu'à l'endroit où on les règle, et il posait sa clope entre le bout de bois et le bout de métal de la corde pendant qu'il joue de la guitare.
Voilà. C'est tellement cool.
C'est trop cool.
En tout cas, c'est une guitare qu'il a depuis 1979. Il l'a revendue en 99 lors d'une vente de charité, et elle a été revendue là 25 000 livres, ce qui doit faire, je te laisse calculer Eric.
Bah, ça fait
250 000
francs.
Tu passes par les francs?
Mais oui, pour les livres, oui, parce que. Mais non! Mais parce qu'en fait, pour moi, 10 livres, c'était 100 francs. Et donc, et 100 francs, c'est 15 euros. Donc, tu vois. C'est le journal de la musique avec au menu Bono qui s'excuse.
Dingue.
Et Lily Allen, on va commencer par elle, qui dévoile deux nouveaux titres issus de son prochain album.
Les deux morceaux s'appellent Three et Higher. C'est deux titres qu'on va retrouver sur son prochain disque, No Shame, dont la sortie est prévue pour le 8 juin, extrait du premier. One day I hope you may.
C'est pas l'arbre, je veux dire. Il y a un H.
Oui, non, c'est three. Le chiffre 3. C'est une balade qui change un peu du premier extrait qui était, excusez-moi, en duo avec un rappeur britannique. C'était le petit chat que j'avais dans la gorge. Le rappeur était tout à fait normal. Britannique.
On va y arriver. Thomas.
Donc ça change parce que là c'est une balade, alors que le premier extrait c'était un titre un peu plus punchy. Donc on retrouve une Lily Allen tout en douceur. Je pense que c'est un morceau pour un de ses enfants probablement. En tout cas, No Shame, l'album, ce sera le premier album de la chanteuse en 4 ans depuis la sortie de Jesus, c'était en 2014.
Et puis Bono qui s'excuse. Alors c'est pas lui qui a fait la bêtise.
C'est des excuses qui font suite à des accusations de harcèlement sexuel chez One, l'association qu'il a cofondée. Alors évidemment Bono lui-même n'y est pour rien. Mais en tant que cofondateur, il a été interrogé sur le sujet dans le Daily Mail d'hier. Il y a une femme qui aurait subi un harcèlement et qui aurait été déclassée après avoir refusé des avances et subi des remarques sexistes de la part de son manager. Alors Bono se dit évidemment furieux et que dans la mesure où il est créateur de ce lieu de travail, il se doit de prendre ses responsabilités. Il s'est engagé à rencontrer les victimes, parce qu'il y en a plusieurs, pour s'excuser tout à fait personnellement. Eh bien Bono, très bien, tu prends les choses, hein ? Vas-y,
c'est bien,
Bono.
C'est un super gars et je suis en train de regarder sur le bail zégut justement de notre pote Zézé, parce que j'ai l'impression qu'il y a un anniversaire sur autour de U2. Il me semble que j'ai vu ça ce matin. Non, un album de U2 qui était devenu numéro 1 comme ça. C'est peut-être l'album justement Heartoon Baby dans les années 90 et qui va vous rouvrir.
Qu'est-ce qu'il dit,
monsieur France?
Je pense que c'était Joshua Tree qui est sorti il y a 2 ou 3 jours. T'as dû voir.
Ah, voilà. Oui, mais je réfléchis longuement.
Je crois qu'il est sorti il y a un peu plus longtemps que ça.
Joshua Tree?
Mais c'était pas il y a 2-3 jours.
Jean-Jean.
Quoi? Excusez-moi, qui êtes-vous?
Oui, je me le demande.
Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre?
Arrêtez, c'est pas possible.
Je pense que tout va mal dans cette radio. Merci, mon Zeg. Merci, Mathilde, pour le journal de la musique. On va vous parler maintenant d'un live. D'ailleurs, tu finiras, si tu veux bien, Mathilde, par nous raconter dans quel contexte a été enregistrée cette chanson avec la belle Tina. Mais là, je vais vous parler d'abord d'un album. C'est le 10e album de Bowie. Début des années 80, ça fait quelques temps qu'il marche plus tellement, notre David, depuis qu'il est rentré de Berlin. Alors, un soir, en discothèque, il rencontre un mec qui est le gros vendeur de disques du début des années 80, qui s'appelle Nile Rodgers. Ils décident de travailler ensemble. Ils partent dans le chalet en Suisse de David Bowie. Bowie lui montre ses chansons, et notamment un album qui doit s'appeler Let's Dance, avec une chanson qui s'appelle Let's Dance. Et l'autre lui dit, mais tu peux pas appeler cette chanson Let's Dance? Elle est toute pourrie, ça fera pas danser les gens. Donnez-moi, je vais les refaire. Et il repart avec les chansons. Bowie, il a un peu les nerfs. Quand il revient avec les bonnes chansons, Bowie comprend qu'en effet, de temps en temps, il faut laisser la main. Alors voilà, Let's Dance. Petite anecdote de Père Castor au sujet de cette chanson que je ne connaissais pas.
Mais oui, on l'a fait.
Est-ce que vous savez à qui il est fait allusion dans Put on your red shoes and dance the blues? Mets tes chaussures rouges.
Dis-moi.
Le comte d'Anderson. Les souliers rouges chantés par Marc Lavoine. Je ne sais pas s'il y a un lien entre David Bowie et Marc Lavoine. En tout cas, cette histoire est dingue. Vous savez l'histoire de cette petite fille qui veut être bonne danseuse, alors on lui donne des chaussures rouges.
Tu fais partie très loin.
Donc voilà. Non, mais
très loin.
Anderson, les souliers rouges que chante Bowie. Et alors ce jour-là, il le chante où et avec qui? Prends la patate chaude.
Wow. Ok. Donc alors, moi, je vous amène un peu plus à la fin des années 80. On est en 88 avec la sortie du Tina Live in Europe. Décidément, ce petit chat dans la gorge a vraiment très envie de rester. Eh bien, donc ce Live in Europe, c'est des enregistrements qui ont été faits entre 85 et 87 sur la tournée Private Dancer de Tina Turner. En 84, elle avait déjà travaillé avec David Bowie sur une reprise d'Iggy Pop, un titre qui s'appelait Tonight.
Tonight, oui. Parce que dans cet album aussi, il y a aussi une reprise d'Iggy Pop. Oui, pardon, il faut
avancer. Oh là là, on part dans tous les sens. Si vous y comprenez quelque chose, faites-nous signe.
Donc revenons, Let's Dance, David Bowie en duo.
Ils ont travaillé ensemble en 84. Et là, bim, surprise, pendant son concert à Birmingham, au Palais des Expositions, eh bien, qui c'est qui monte sur scène? David Bowie qui rejoint Tina Turner pour chanter quoi? Pour chanter Let's Dance. Et il s'aime beaucoup, il commence en disant que c'est un énorme privilège d'être sur scène avec elle. C'est pas ouf.
Et c'est sur RTL2, merci madame.
And dance the blues. Let's dance. Dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway. Sway to the crowd in an empty space. If you should fall into my arms, tremble like a bird.
L'info de l'apéro à 10 minutes de cette fin d'émission, c'est que les dinosaures vont s'installer à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle?
Mais oui, des dinosaures extraits. De
comment? C'est une voix de T-Rex. Dinosaure. J'ai fait ma voix de T-Rex.
Non, c'était ta voix de Gollum, plutôt. De Gollum.
Qu'est-ce
de...
que c'est que cette nouvelle?
Seigneur des Anneaux, ouais. Ça
donc,
fait...
ils viennent où?
C'est sympa. Eh bien, ils vont venir à la Cinémathèque de Paris où il va y avoir une exposition Jurassic World. Vous savez, après Jurassic Park, il y a eu Jurassic World qui est sorti en 2015, non plus réalisé par Steven Spielberg, mais plutôt par Colin Trevorrow. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, excusez-moi.
Ça va bien, Mathilde. Je pense qu'on est en pleine forme aujourd'hui. On est tous
en, salon,
en super
fait,
forme.
Tout simplement.
On est entre amis, c'est parfait.
On est entre amis. Donc, en fait, il va y avoir cette exposition qui a été réalisée avec l'aide d'un paléontologue qui s'appelle Jack Horner. Et donc, les fans de dinosaures et du film pourront revivre les grandes scènes et découvrir la Isla Nublar avec les dinosaures grandeur nature, très réaliste.
Ouais, et au Petit Palais, pour les Parisiens qui ont des enfants, vous pouvez aller voir des dinosaures qui sont des espèces de répliques. C'est assez rigolo, mais pour les petits, parce que pour les grands, c'est moins impressionnant que Jurassic Park.
Ça sera en tout cas du 14 avril au 2 septembre. C'est quand même 24 euros pour les adultes et 14 pour les enfants. Faut avoir envie d'y aller, quoi. Faut aimer les dinos.